Le 18-20 commence avec le premier journal de la soirée présenté par Sébastien Logeni. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir par des manifestations de soutien aux soignants non vaccinés.
Ils ont théoriquement jusqu'à demain pour se faire piquer, mais 12% des soignants refuseraient encore de se soumettre à cette obligation. Manifestation aujourd'hui dans toute la France. Nous serons dans la Creuse où une centaine d'habitants sont venus encourager les derniers récalcitrants. L'autre actualité du jour, ce sont les annonces d'Emmanuel Macron sur la sécurité. Simplification drastique de la procédure pénale, plus de bleu dans la rue, une loi de programmation, un budget en nette hausse, le détail avec le service politique et la réaction positive des syndicats de police. À suivre également le changement climatique qui angoisse terriblement les jeunes, le procès Benalla et son rôle à l'Élysée, et enfin les premiers chocs de la Ligue des Champions, c'est du foot et ça recommence ce soir.
À 18h15, un jour dans le monde au Brésil, ce soir qui semble-t-il a été à deux doigts d'un coup d'état de la part de Jair Bolsonaro lui-même, en délicatesse avec à peu près toutes les institutions de son pays. Ça nous donne l'occasion de faire un point sur ce pays avant des élections l'année prochaine qui promettent déjà d'être chaotiques et de mesurer aussi les chances d'un retour de Lula. On y viendra avec le premier invité ce soir. La première invitée à 19h20, c'est le téléphone sonne. Faut-il juger nos ministres et surtout comment? La mise en examen d'Agnès Buzyn pour sa gestion du Covid déclenche une tempête de réactions. Oui, les ministres sont comptables, mais est-ce que la CJR, la Cour de justice de la République, est la meilleure instance pour les juger? Doivent-ils d'ailleurs être jugés pour leur action ou leur inaction? Peut-on prendre des décisions a posteriori? Est-ce que cette épée de Damoclès, au contraire, est salutaire pour la démocratie? Votre avis, vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Ils sont donc déterminés à refuser l'obligation vaccinale contre le Covid.
Des centaines de soignants sont descendus dans la rue aujourd'hui pour manifester leur opposition à ce qu'ils considèrent comme une injonction autoritaire. Demain, c'est le jour couperet à partir de ce mercredi. En effet, les infirmières, aides-soignants, ambulanciers, tous les personnels des hôpitaux et des maisons de retraite qui n'auront pas commencé leur schéma vaccinal risquent la suspension sans traitement, sans salaire, avec à la clé des risques de désorganisation important dans les services. On estime, je le disais aujourd'hui, à 12% le nombre de réfractaires. Ces soignants n'étaient pas seuls dans les rues aujourd'hui. Certains habitants sont venus leur prêter main forte. Illustration, dans un EHPAD de la Creuse, l'EHPAD de Royères de Vassivière, 70 salariés dont 5 non vaccinés. C'est le reportage de Tristan Barraud.
Devant l'EHPAD, cette salariée est sortie de l'établissement pour rejoindre le mouvement. Elle fait partie de ceux qui ne se sont pas vaccinés, elle souhaite rester anonyme.
Il y a du monde, c'est une incompréhension. Moi, je comprends pas comment on peut considérer l'humain comme ça. Injecter un produit qui, pour l'instant, pour moi, n'a pas fait ses effets. Enfin, j'attends de voir les effets. Les gestes barrières, ça a toujours été respecté, d'où zéro cas. On a eu des agents qui ont été infectés, mais avec le respect de tout ça, ils n'ont contaminé personne.
Adèle, proche d'un résident, est à l'origine de cette manifestation de soutien. Elle est exaspérée.
Depuis presque un mois, là, en fait, on ne peut plus rentrer dans l'EHPAD. En fait, la seule possibilité de pouvoir voir la grand-mère, parce que nous, on n'est pas vaccinés, la grand-mère non plus. La seule possibilité, c'est de pouvoir la voir à l'extérieur. Donc, ils nous l'amènent. Par rapport au passe sanitaire, mais aussi en soutien avec au personnel.
Assis sur un banc, Jacques est l'un des résidents. Il observe de loin le mouvement.
S'il y a encore moins de personnes qui sont là, c'est la catastrophe absolue. Ici, on est en train de crever parce qu'il n'y a personne pour s'occuper des gens. Il n'y a personne pour faire la nourriture non plus. On mange vraiment très très peu. Je suis complètement sous-alimenté.
Le rassemblement se termine par des applaudissements en soutien au personnel non vacciné.
Le reportage de Tristan Barraud de France Bleu Creuse. Quelle est précisément la situation dans les EHPAD privés maintenant? Y a-t-il beaucoup de soignants encore non vaccinés? Et surtout, comment faire pour les convaincre? Le syndicat des EHPAD privés a fait le point aujourd'hui. Entre 3000 et 6000 salariés pourraient manquer à l'appel demain. 1 à 2% des effectifs, avec de grandes disparités territoriales, de grosses difficultés dans le sud-est et aux Antilles notamment. Toutefois, le syndicat des EHPAD privés veut encore temporiser. Les récalcitrants auront encore 2-3 jours devant eux, en congé, le temps d'une dernière réflexion. Écoutez Florence Arnay-Maumet, déléguée générale.
C'est la moindre des choses quand même. On entraîne toute une famille avec une suspension de contrat et de salaire. Donc il ne nous paraît pas anormal de laisser 2 ou 3 jours de réflexion pour poser la question ultime. Pourquoi nous préconisons ça? Parce qu'on voit bien que dans les retours que nous avons, ce sont des salariés qui croyaient encore à l'aménagement, qui croyaient encore au recul du 15 septembre. Donc certains vont attendre le 15 septembre minuit pour dire « Ah ben non, il n'y a pas de recul », pour dire « Ah ben oui, finalement, j'y vais ». Donc on a encore ce sas là. Et c'est pour ça qu'on le met en place. Si le salarié rentre en première dose, eh bien, nous pouvons encore lui laisser 24 heures, 48 heures. Aujourd'hui, c'est très simple d'entrer dans un schéma vaccinal et très rapide. Et à ce moment-là, le contrat n'est pas suspendu. Et puis, le salarié qui, in fine, sur sa dernière décision, continuera de refuser, eh bien là, nous suspendrons le contrat de travail et la rémunération.
Florence Arnaud-Maumet, déléguée générale du CINERPA avec Hélène Chevalier. Globalement, en dehors de la question des soignants, le rythme des vaccinations en France ralentit nettement, au point que le ministère de la Santé réfléchit à fermer des centres dès cet automne ou au plus tard en février 2022. Au chapitre Covid encore, on a appris aujourd'hui que Vladimir Poutine était cas contact. Le président russe lui-même vacciné avec le sérum russe Sputnik V va devoir se mettre à l'isolement et annuler sa participation à plusieurs sommets.
La sécurité sera bien au cœur de la campagne présidentielle.
Emmanuel Macron s'est en tout cas largement approprié le sujet aujourd'hui en promettant des annonces substantielles, en faisant des annonces substantielles en clôture aujourd'hui du Beauvau de la sécurité, cette concertation de plusieurs mois sur les conditions du métier de policier. Bonsoir Maxence Lambrec.
Bonsoir.
Vous avez assisté à ce discours depuis Roubaix et ce qui est le plus marquant, c'est notamment le budget accordé aux forces de l'ordre, 1,4 milliard d'euros de plus pour l'an prochain.
Oui, les milliards continuent de tomber à la clé. Nouveaux véhicules, commissariats rénovés, caméras piétons pour chaque patrouille, caméras aussi dans les véhicules et bientôt un nouvel uniforme finit la casquette du policier. Emmanuel Macron promet aussi à court terme de nouveaux cycles horaires, moins d'administratifs pour plus de terrain, avec le dépôt de plaintes 100% en ligne en 2023 et une procédure pénale simplifiée, des amendes forfaitaires dès le mois prochain pour les squats d'immeubles et campements illicites. La police aura aussi sa réserve, 20 000 personnes, et celle de la gendarmerie sera doublée. La durée de formation initiale des policiers repassera à 12 mois. Les forces de l'ordre ont à Montpellier une académie pour la formation continue et en Ile-de-France un centre d'apprentissage du maintien de l'ordre. D'ailleurs, un nouveau schéma de maintien de l'ordre sera publié en octobre et la police des polices, l'IGPN et l'IGGN pour la gendarmerie feront l'objet d'un contrôle parlementaire. Leurs rapports seront tous rendus publics. Voilà pour le court et moyen terme. S'il est réélu, une loi de programmation verra le jour 2023-2028 pour s'adapter notamment au tout numérique. Elle sera dévoilée en janvier, mais impossible de la voter avant la fin du quinquennat. La promesse électorale est la suivante. Dans 10 ans, policiers et gendarmes, 2 fois plus présents sur la voie publique.
Maxence Lambrec en direct de Roubaix, merci, avec les moyens techniques de Raymond Albouy. Simplification donc de la conduite des enquêtes, doublement des policiers sur le terrain, loi de programmation, les annonces du président sont au bout du compte très proches des revendications des policiers. Réaction satisfaite d'Alliance avec son secrétaire général Fabien Van Helmelric.
C'est un discours, il nous faut des mesures concrètes. Ces mesures concrètes, il y a un laps de temps qui a été donné, 3 à 6 mois, notamment pour l'allègement de la procédure pénale. On nous a parlé des états généraux de la justice et enfin un devoir de transparence par rapport à celle-ci. Donc tout va dans le bon sens, dans le discours, et ce discours avait besoin d'être entendu. Mais on nous a surtout annoncé un budget conséquent avec 1,5 milliard d'augmentation. L'argent, il est déjà là, donc encore faut-il l'utiliser très rapidement, donc on le verra dans les quelques semaines qui viennent, on va se mettre autour de la table, soit on nous dit que ça arrive très prochainement, soit on nous dit qu'on y réfléchit et qu'on refait un énième séminaire, et là on nous dira tout simplement que le président nous a menti, mais je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant pour lui qu'on dise ça à quelques mois de la présidentielle.
Voilà, le secrétaire général d'Alliance avec Maxence Lambrec, discours critiqué en revanche à droite et à gauche, discours de candidat selon Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, lui-même candidat à la présidentielle, instrumentalisé des forces de l'ordre pour le député LR du Pas-de-Calais. Un mot de politique encore, les Républicains qui auront à choisir entre 2 méthodes pour choisir justement leur candidat à la présidentielle, soit un congrès limité aux seuls militants à jour de cotisation, soit une primaire un peu plus ouverte aux sympathisants. Décision lors du congrès organisé le 25 septembre prochain.
Et à 18h09, Sébastien, de la grêle, du vent, de violents orages dans le département du Gard en fin de matinée.
Plus de 300 mm d'eau par endroit, un épisode méditerranéen brutal, mais que Météo France avait anticipé. Le bilan est assez lourd, 2 personnes sont portées disparues. Un homme dans la ville d'Uchaud, une femme à Aigues-Vives. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu en début de soirée à Uchaud. Par ailleurs, l'autoroute A9 est toujours fermée entre Nîmes et Galargues. Trafic des trains interrompu également entre Nîmes et Montpellier. Reprise du trafic pas avant 23h. 4500 personnes au total privées d'électricité. Écoutez le témoignage de cette habitante, Laetitia, habitante d'Aubord, à l'ouest de Nîmes.
Le Rieu a débordé, donc toute la rue a été inondée. Quasiment, c'est monté à, je dirais, 30 ou 40 cm. Il y a la marque encore. toute l'eau est rentrée à l'intérieur. J'ai sorti toutes mes serviettes et je les ai mis par terre, j'ai barricadé par terre, mais ça ne servit à rien du tout. On est au rez-de-chaussée et tout partout, donc c'est descendu jusqu'aux chambres.
Un témoignage au micro de Roman Porcon. Et voilà un épisode météo qui ne va pas rassurer ceux qui s'inquiètent des dérèglements climatiques, en particulier les jeunes qui sont particulièrement sensibles à cette question. Une vaste étude britannique révèle que l'anxiété climatique est un mal qui touche profondément les 16-25 ans. 10 000 jeunes ont été interrogés dans 10 pays différents, Australie, Brésil, France ou Nigeria. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Près de la moitié des jeunes sondés déclarent que l'anxiété climatique affecte leur fonctionnement et leur vie quotidienne.
Oui, dans cette étude, les jeunes expriment une palette d'émotions négatives face au dérèglement climatique. Peur, tristesse, angoisse, impuissance, voire culpabilité. Seuls 30% des 16-25 ans interrogés se disent optimistes. « J'ai grandi dans la peur de me noyer dans ma propre chambre », dit une jeune militante de 23 ans des Philippines, régulièrement frappée par les typhons et les inondations. C'est l'un des témoignages cités dans cette enquête réalisée par des chercheurs d'universités britanniques, américaines et finlandaises pour le compte de l'ONG Avaaz. Près de 60% des jeunes sondés disent qu'ils sont très ou extrêmement inquiets face au réchauffement climatique. Angoisse encore plus vive dans les pays les plus pauvres du panel, Philippines, Inde et Brésil. Au-delà de l'anxiété, les jeunes interrogés se sentent trahis par les adultes et les gouvernants. 64% disent que les gouvernements leur mentent. Les auteurs de cette étude s'inquiètent des conséquences à long terme sur leur santé mentale quand on sait que les trois quarts des 16-25 ans interrogés trouve que le futur est effrayant.
Et à Sandy Dauphin, spécialiste environnement à Inter, ajoutons ce pavé dans la mare de l'ONU qui dénonce les aides à l'agriculture dans le monde. 540 milliards de dollars par an, des aides qui trop souvent engendrent, je cite, des effets dommageables pour l'environnement ou la santé. Direction le procès Benalla à Paris, deuxième jour d'audience. Alexandre Benalla poursuivi pour violence en réunion le 1er mai 2018 et usurpation de la fonction de policier. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Cet après-midi, il a été question, Ariane, du rôle d'Alexandre Benalla à l'Élysée.
Oui, un rôle de chargé de mission pour lequel Alexandre Benalla semble avoir bénéficié d'une grande marge de manœuvre. La présidente veut notamment savoir pourquoi il n'a pas averti sa hiérarchie directe dès le soir du 1er mai, mais envoyé un message au secrétaire général du cabinet d'Emmanuel Macron. L'interroge sur le téléphone d'où il a émis ce SMS, un appareil perdu, puis miraculeusement retrouvé après sa garde à vue. Et là, le prévenu policé, voire lisse, que l'on a vu jusqu'à maintenant, change de visage. Alexandre Benalla s'agace, dit ne pas comprendre pourquoi on débat autour de ce téléphone. On ne débat pas, je vous interroge, rétorque Isabelle Prévost-Desprez. Elle l'avertit, ici, on peut mentir comme on veut, mais quand ça coince, ça coince. Le fait de se faire traiter de menteur en pleine audience, c'est un peu vexatoire, madame la présidente, parce qu'il y a des journalistes qui jouent ce jeu-là depuis 3 ans, dit celui qui ne cache pas sa rancœur envers la presse. Ces explications restent toutefois peu convaincantes aux yeux de la juge. Avant de passer à autre chose, elle avertit le prévenu, c'est comme si vous creusiez le trou pour vous mettre dedans.
Ariane Grissel, merci en direct du Palais de Justice de Paris avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro.
Les amateurs de foot ont mis les bières au frigo, c'est la reprise de la Ligue des Champions.
Au début de la 67e édition ce soir, Fabienne, avec l'entrée en lice du champion de France, Lille qui reçoit les Allemands de Wolfsburg et des affiches de rêve déjà avec notamment FC Barcelone Bayern Munich. De son côté, le PSG entrera en lice demain soir face au club Bruges en Belgique. Paris et son trio magique, Messi, Neymar, Mbappé, déjà donné grand favori. Mais attention, Alexandre Vaux, plusieurs équipes peuvent encore venir jouer les troubles faits.
À commencer par le tenant du titre Chelsea, renforcé par l'arrivée de l'attaquant belge Romelu Lukaku pour 115 millions d'euros. Les Anglais entrent en lice ce soir face aux Russes du Zénith Saint-Pétersbourg et comptent bien défendre leur couronne. Mais pour cela, les joueurs de Thomas Tuchel vont devoir repartir 2-0, prévient l'entraîneur londonien.
Bien sûr, c'est le plus grand titre que j'ai gagné. C'était une soirée incroyable. Mais honnêtement, j'ai l'impression que c'était il y a longtemps et on doit penser comme ça pour repartir de l'avant. Le match de ce soir est le plus important pour bien démarrer notre campagne en Ligue des Champions.
Car conserver son titre en Ligue des Champions reste une exception. Sur les 30 dernières années, seul le Real Madrid de Karim Benzema a réussi cet exploit il y a 4 ans. D'autant que l'attente sera forte également autour des deux clubs de Manchester. City, finaliste la saison dernière, et United, renforcé par le grand retour de Cristiano Ronaldo. Sans oublier les anciens vainqueurs récents, le Bayern Munich l'année dernière et Liverpool il y a 2 ans.
Alexandre Vaux, donc premier match à suivre ce soir, Lille-Wolfsburg, coup d'envoi à 21h.
Merci beaucoup. beaucoup Sébastien. Tout de suite dans Un jour dans le monde, dans Sous les radars, vous nous emmenez notamment dans un pays qui n'existe pas. Et c'est pas banal. Ce soir, nous allons au Brésil qui existe bel et bien, où Jair Bolsonaro, en manque de popularité, a été, semble-t-il, à deux doigts d'un coup d'État. On vous racontera tout ça. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne. Vous nous donnerez votre avis, vous poserez vos questions sur la manière dont il faut juger les ministres et pour quelles raisons. Vous avez suivi, comme nous, évidemment, la mise en examen d'Agnès Buzyn. Elle n'est pas la seule dans le viseur de la Cour de justice de la République. Mais est-ce que cette Cour, c'est le bon tuyau pour que les ministres rendent des comptes? Est-ce que c'est la démocratie qui est en pleine marche ou le risque est-il de paralyser l'action des politiques? Il y a d'autres questions, ce sont les vôtres, au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel, s'il vous plaît.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Élodie Calac, bonsoir. Encore très très orageuse cette soirée, cette nuit aussi d'ailleurs, Élodie.
Oui, bonsoir à tous. En effet, du sud-ouest au nord-est, on attend encore des orages parfois forts. Alors, une vigilance orange est en cours sur 12 départements de l'Occitanie, du Limousin et du Massif central, avec des orages parfois intenses, de la grêle, des rafales de vent et attention aussi au débordement des cours d'eau.
Et sinon, un temps agité demain sur le sud et sur l'est.
Oui, alors on aura une petite accalmie sur le sud-ouest demain matin, mais ça ne durera pas. Il faudra à nouveau composer avec des averses et des orages parfois costauds. On surveillera particulièrement le Languedoc et la basse vallée du Rhône à nouveau avec de fortes intensités pluvieuses possibles. Ce sera plus calme quand même en remontant vers le nord-ouest, le nord de la Seine, et ça s'éclaircira bien sur les régions voisines de la Manche. Et puis pour les températures, il fera 18 à 24 degrés au nord l'après-midi, donc ça baisse un peu, et 24 à 29 au sud, jusqu'à 32 autour de la Méditerranée.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure après 19h.